inserimento alle spalle della difesa del
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi. L'avant-match, vous le savez, consacré au football européen. Mais bien entendu, on parlera du football africain. Il y a des matchs de Coupe d'Afrique des clubs champions et la Coupe de la CAF en ce moment, vendredi, samedi, dimanche. Et puis également, vous le savez, les championnats et d'autres informations concernant l'Afrique. Bien entendu, on ira en Europe pour parler du derby madrilène, le Real face à l'Atlético. On parlera également de Manchester United qui sera opposé à Arsenal et puis d'autres affiches ce week-end. On parlera également de ce qui secoue en plus en ce moment l'Allemagne avec cette affaire de gardien de but de la sélection. Et puis également l'Italie avec le 5 sur 5 de l'Inter de Milan. Dans cette première partie, eh bien d'abord Frédéric Hermel à Madrid. Bonsoir Fred.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Et également avec nous Aurélien de Vernoy. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir Fred, bonsoir à tous.
Vers la fin de cette première partie, on ira en Allemagne pour retrouver David Lortolari. On parlera donc de cette affaire de gardien, également Lewandowski qui est parti sur des bases qui, en Allemagne, on dit peut-être qu'il va dépasser les 40 buts. En tout cas, il est parti sur les chapeaux de roue avec 9 buts inscrits déjà en 5 journées. On va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine en Espagne rapidement avec, on le sait, Messi qui a été sacré le joueur FIFA de l'année. Il y a également le Real Madrid, bizarrement, mercredi, il y a une dizaine de jours, le Real était moribond, Zidane était quasiment viré. Et une semaine plus tard, le Real est en tête de la Liga et se porte comme un charme. C'est quoi ces changements d'attitude, surtout de la presse espagnole, Fred?
Tu as raison de le préciser, c'est plus de l'extérieur qu'il y avait de l'inquiétude plutôt qu'à l'intérieur. Zizou lui-même le dit, une chose, c'est ce qu'on dit en dehors du vestiaire, ce qu'on ressent en dehors du vestiaire, une autre chose, c'est ce qu'on sent à l'intérieur du vestiaire. Bon, c'est vrai que la défaite à Paris avait fait tache, mais vous savez, il y a quand même des joueurs d'expérience, et Zizou est le leader de ces joueurs d'expérience en tant qu'entraîneur. Ils en ont vu d'autres. L'important, c'est d'être prêt au moment décisif, pas forcément au premier match de Ligue des Champions. Il vaut mieux être prêt pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale. C'est vrai qu'il y a eu une belle réaction à Séville. Au-delà du résultat de la victoire, c'est surtout l'attitude des joueurs. Et j'ai eu l'occasion de parler avec un membre du staff technique de Zizou et qui me disait on a bien vu que les joueurs étaient à fond derrière nous. Et c'est ce qui compte. Dans n'importe quel club au monde, quand les joueurs lâchent l'entraîneur, ben c'est la fin. Quand on voit la solidarité qu'il y a eu, quand on voit une image qui pour moi résume exactement ce qui se passe en ce moment au Real. 93e minute, Gareth Bale qui fait une course de 40, 50 ou 60 mètres à la 93e minute pour venir défendre et récupérer un ballon. Si même Bale se défonce pour Zidane, c'est que vraiment le vestiaire est derrière lui. C'est ce qui compte. Et puis là aussi, il veut impliquer tout le monde. Et le match contre Osasuna, il avait fait 8 changements. Et on a vu notamment les débuts d'Alphonse Areola. On a vu Rodrigo, on a vu Vinicius, les deux marqueurs, les deux buteurs de cette équipe. Voilà, le groupe de 25 joueurs est impliqué dans le projet de Zidane. Ils sont tous derrière lui. Donc, pour l'instant, ça va bien. Mais il faut être sérieux. Si demain, il y a défaite au Wanda, on va de nouveau parler de crise. Ici, ça monte et ça descend tout le temps.
Voilà, on a déjà écouté Zinedine Zidane au cours de nos éditions, nos précédentes éditions. On l'écoutera ce soir, dans Sportsoir d'ailleurs, pour ce match. Et demain également, le Real qui affronte l'Atlético. C'est un derby très attendu, d'autant plus que l'Atlético vient de s'imposer en déplacement. C'était face à Mallorca. Avant de revenir sur cette rencontre, un petit mot sur... parce que l'Espagne, il n'y a pas que l'Espagne... Plusieurs personnes, plusieurs spécialistes étaient surpris après le vote de lundi dernier, la FIFA qui a attribué le titre de joueur de l'année, joueur FIFA, de best, à Lionel Messi. On le sait, il a été champion d'Espagne avec le Barça, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Cela étant, son équipe a perdu en finale de la Coupe d'Espagne et également en demi-finale de la Ligue des Champions. Et on a vu un Messi triste ces dernières semaines et ces derniers mois même, Fred.
Oui, alors, il y a un prix qui compte vraiment, c'est le Ballon d'Or, parce que ce sont des gens neutres qui votent, c'est-à-dire des journalistes. Là, le vote des capitaines et des de sélection et des sélectionneurs, voilà, ce sont des votes politiques. On veut pas froisser des gens, on vote pour les copains, etc. Ça n'a pas grand intérêt. Dieu sait si je ne suis pas un défenseur du football anglais, mais il paraît évident qu'un joueur de Liverpool aurait dû remporter le Ballon d'Or. Enfin, sincèrement, il faut être sérieux. Même à la rigueur, Cristiano Ronaldo, parce qu'il a gagné le Calcio et parce qu'il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Mais la logique aurait voulu un joueur de Liverpool. Et d'ailleurs, au Ballon d'Or, je suis persuadé, enfin, qu'il y aura au moins un joueur de Liverpool très très bien placé. Donc voilà, ce prix FIFA The Best, on peut pas dire qu'il soit très révélateur de la qui peut être le meilleur joueur du monde. Non, je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps dans ces débats. Ce qui compte vraiment, c'est le Ballon d'Or. Et je ne le dis pas parce que je suis le correspondant à Madrid de France Football qui donne le Ballon d'Or. Hein.
Voilà, ça, on le savait déjà, mais c'est bien de le rappeler. Vous restez avec nous, Fred. On va revenir. Il y avait déjà un match au programme aujourd'hui. Il y a un match au programme avec Villarreal face au Betis de Séville. Je voulais surtout évoquer deux joueurs, deux superbes joueurs. Joaquim d'un côté et également Cazorla de l'autre. On reviendra sur le derby entre le Real et l'Atlético. Mais d'abord, un petit saut par l'Angleterre. Aurélien, en milieu de semaine, on a joué des matchs de coupe. Il y a eu quelques surprises avec notamment Tottenham, finaliste de la dernière Ligue des Champions, qui est passé à la trappe.
Oui, tout à fait. Tottenham qui vraiment est dans une passe extrêmement difficile. Ça se passe pas bien pour Pochettino et ses joueurs. Alors là, ils jouaient contre une D4, imaginez, hein, Colchester qui joue en Ligue 2. Pochettino avait dit, bon, je vais en profiter pour faire tourner un petit peu mon effectif. Donc je vais mettre quelques jeunes joueurs, mais quand même garder mes défenseurs, mon gardien. Bon, c'est Gazzaniga qui remplace Lloris, mais Lloris était un petit peu blessé et puis là, était en phase de récupération. Donc il a lancé quelques jeunes joueurs et le problème c'est que jamais cette équipe de Tottenham n'a réussi à trouver la faille contre Colchester, même quand finalement Pochettino s'est décidé à faire rentrer Son ou Eriksen, et ben ça n'a toujours pas fonctionné et le résultat et ben c'est qu'ils ont été amenés au tir au but et vous savez les tirs au but comment ça se passe, c'est un peu à pile ou face et Tottenham s'est donc fait éliminer dès son entrée en lice dans cette League Cup. C'est vraiment très très inquiétant pour Tottenham. Alors ce week-end ils jouent contre Southampton qui est pas très bien classé en première ligue, peut-être qu'il va y avoir un sursaut, mais on a vraiment l'impression que Tottenham voilà, a du mal à digérer cette finale de Ligue des Champions perdue la saison dernière, qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui soit auraient souhaité partir à cette intersaison, on pense notamment à Eriksen, ou sont vraiment en bout de course dans leur histoire avec Tottenham, et c'est le cas notamment je pense de Harry Kane, même si Harry Kane a toujours déclaré vouloir rester à Tottenham, et ben, le résultat c'est que Pochettino lui aussi on a l'impression qu'il manque un petit peu d'idées, un petit peu d'inspiration pour relancer son équipe. Et Tottenham est déjà en grande difficulté, que ce soit en championnat et même en Ligue des Champions. Et surtout, la semaine prochaine, c'est la réception du Bayern Munich. Et ça inquiète beaucoup les supporters des Spurs.
Avant le Bayern, une dernière question, comme ça on libère Aurélien. Il y a un derby, un choc, même si ces dernières années, eh bien, les deux équipes ont cédé la place à des équipes comme Liverpool, comme Chelsea, Liverpool et surtout Manchester City. Je parle de Manchester United contre Arsenal, surtout United depuis 2013, le départ d'Alex Ferguson, eh bien, l'équipe a du mal. C'est un choc suivi en Angleterre, toujours avec la même ferveur, Aurélien.
Oui, parce que c'est une vraie rivalité, hein. Manchester United-Arsenal, c'est une rivalité qui a duré sur 20 ans quasiment, hein, années 90, années 2000. Et évidemment, même si les équipes sont peut-être plus complètement au firmament comme elles ont pu l'être avant, c'est toujours un match qui est très très suivi. Alors, Arsenal marche pas trop mal cette saison, même si je le répète chaque semaine, il y a quand même des gros soucis défensifs dans cette équipe des Gunners. Du côté de Manchester United, en revanche, c'est très 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 compliqué également. Là, en League Cup cette semaine, ils ont été poussés au tir au but contre Rochdale, qui est une équipe de Détroit, et vraiment, on a eu l'impression que United et que Solskjaer avaient aucune solution et surtout pas l'envie. Pogba est revenu après plusieurs semaines d'absence et il traînait son mal-être sur le terrain, et d'ailleurs il est de nouveau incertain ce week-end pour ce choc. C'est vraiment une équipe qui est pas en forme du tout, Manchester United, et c'est vrai que là aussi les supporters se font beaucoup de soucis. Je voulais juste avant de vous laisser faire un petit rebond sur ce que disait Fred par rapport à l'élection du Ballon d'Or. Le problème qu'a Liverpool cette saison pour le Ballon d'Or, c'est un peu le problème qu'a eu l'équipe de France championne du monde 2018, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été très performants avec Liverpool, que ça soit Sadio Mané, Mohamed Salah ou Virgil van Dijk. Et le problème, c'est que les votes risquent de se disperser, et c'est pour ça qu'à Liverpool, on n'est pas du tout convaincu qu'un des joueurs va avoir le Ballon d'Or. En fait, il faudrait que le Ballon d'Or soit attribué à une équipe pour que les Reds soient sûrs de l'avoir.
Merci beaucoup Aurélien de Vernois, notre monsieur football anglais. En parlant de Ballon d'Or et Liverpool, eh bien la Fédération internationale de football a répondu à la Fédération égyptienne, puisque Mohamed Salah, l'international égyptien de Liverpool, aurait pu finir dans le podium. Mais apparemment, les votes du sélectionneur et du capitaine, eh bien le secrétaire général de la Fédération égyptienne, c'était déjà en majuscule et apparemment c'est interdit. Et de plus, cela n'a pas été signé par la Fédération et l'ancien secrétaire était parti entre-temps. Voilà pour l'explication de la FIFA et les excuses de la Fédération égyptienne pour la déception de Mohamed Salah. On revient en Espagne dans un instant, on ira en Allemagne, l'Espagne, avec le choc. C'est bien entendu Real Atlético, c'est un match très attendu. Ça sera l'Atlético qui joue à domicile. Les deux équipes ont gagné lors de la dernière journée. Le Real face à Osasuna grâce à des joueurs brésiliens. Et puis l'Atlético sur le terrain de Mallorca après avoir raté l'avant-dernière marche. Le FC Séville a enchaîné une deuxième victoire, une deuxième défaite d'affilée. Du coup, eh bien, le Real est en tête du championnat, même si le Real ne tourne pas, on va dire, à 100%. Mais n'empêche, eh bien, c'est une équipe qui s'est installée en tête du classement. Et on attend, on va dire, les vrais débuts. Il est là, mais il n'a pas encore ce match référence. Ça va venir. Il s'agit de l'international belge Eden Hazard. Zinedine Zidane a évoqué l'international belge lors de sa conférence de presse et bien entendu Frédéric Hermel était présent. Zinedine Zidane.
De toute façon, ce sont des joueurs qui sont prêts pour ça, ils sont prêts pour faire des matchs, pour être performants dans des grands rendez-vous. Donc je doute pas une minute de ça, qu'il sera prêt donc ça c'est pour Eden et pour l'équipe de toute façon en général. C'est pareil, c'est-à-dire que nous on pense pas en fait au résultat, on pense simplement à faire un gros match. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous anime à tous aujourd'hui. On sait le match difficile, il y aura un match compliqué à faire de la première minute à la 90e minute, mais nous on est prêts. Et ça c'est le plus important en fait, d'être préparé pour faire des gros matchs.
Voilà, c'était Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, qui a également rendu hommage à Jacques Chirac, l'ancien président français décédé hier. D'ailleurs, ce week-end en France, eh bien, une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi des rencontres pour rendre hommage à l'ancien président français décédé hier à l'âge de 86 ans. On aura l'occasion de revenir, bien entendu, sur cela et on revient au football, le terrain, le match. Real Atlético, plutôt Atlético Real, on le sait. Ce sont deux équipes, on va pas dire en chantier, il y a eu beaucoup de changements et Fred le disait surtout à propos de l'Atlético, mais également des changements côté Real parce qu'il y avait beaucoup de blessures et Zidane, eh bien, devait se débrouiller. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce choc très attendu, Fred?
Que le Real arrive à un petit avantage, c'est que Zidane a pu faire tourner 8 changements par rapport à l'équipe qui a gagné à Séville, 8 changements mercredi soir contre Osasuna. Quand on voit que Benzema, Bale, Carvajal, Courtois, Varane n'ont pas joué une seule minute, alors que l'Atlético a mis son 11 type quasiment pour gagner à Majorque, et que Morata a été expulsé. Morata qui est rentré en deuxième période, qui s'est plaint un peu trop violemment deux fois près de l'arbitre, a vu deux fois l'avertissement, le carton jaune, il a été expulsé, et il y a quelques minutes, le comité d'appel de compétition du football espagnol, on va dire le comité discipline plutôt, a confirmé le match de suspension de Morata, qui ne pourra pas être aligné demain contre le Real. Quand on sait que João Félix est en pleine intégration, et que Diego Costa, qui a marqué l'autre jour, mais qui est quand même un joueur qui n'est pas dans une grande forme, c'est vrai que l'absence de Morata, qui avait en plus cette motivation de jouer contre son ancien club, le Real Madrid, c'est un moins pour cette équipe de l'Atlético, qui a marqué un peu le pas après de très très bons débuts. La défaite la semaine dernière contre la Real Sociedad a quand même été révélatrice que cet Atlético qui est l'équipe qui a fait la plus grosse révolution dans son vestiaire aux côtés de Séville cette saison, bah, tout n'est pas encore en ordre de marche. Et je sens, moi, les madridistes, parce que les deux sont madrilènes, les madridistes du côté du Real, peut-être un peu plus prêts pour aller au Wanda, avec en plus, on le sait, ces dernières années, des madrilènes qui, en général, des madridistes qui ramènent de bons résultats des visites au Calderón ou au Wanda.
En parlant de la Real Sociedad, c'est une équipe qui marche plutôt bien en ce début de saison. Deuxième derrière le Real Madrid, les équipes basques d'ailleurs, avec Eibar, l'Athletic Bilbao, qui avait réussi à battre le Barça lors de la première journée. En parlant du Barça, on l'a vu l'autre jour, mené rapidement 2-0. Et ensuite, eh bien, l'équipe a commencé à trembler face à Villarreal. Et le nul n'était pas loin, Fred.
Ah, le nul n'était pas loin du tout. Alors, la première période était absolument lamentable des deux équipes. On avait l'impression de voir un match de rentrée, mais un match amical. Hein. Et trois buts ont été marqués dans cette première mi-temps assez minable. Et la deuxième période, qui a été vraiment très belle, très engagée, il n'y a pas eu de but. Le football est vraiment très étrange, mon cher Hakim. Mais l'information qu'on retient, c'est que Messi s'est de nouveau blessé. Et voilà. Et donc, c'est terrible parce que non seulement il se blesse, donc il n'est pas sur le terrain, mais comme il se blesse, il ne peut pas jouer. Et comme il ne peut pas jouer, il ne peut pas prendre le rythme de compétition qu'il n'a pas eu cet été, puisqu'il n'a pas pu faire une vraie préparation de saison, puisqu'il était blessé. Moi, je pense qu'avant l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2020, on ne va pas pouvoir voir un Messi à 100%. Messi a besoin d'être en forme, pas simplement pour jouer les matchs, mais pour bien s'entraîner et être à 100% physiquement. Et ce n'est pas du tout le cas en ce moment.
Voilà, Messi est blessé et normalement ne devrait pas être, bien sûr, ce week-end. Et également, peut-être, il sera absent face à l'Inter en Ligue des Champions la deuxième journée, la semaine prochaine. Vous restez avec nous, Fred. On va revenir vers vous, mais d'abord, on va accueillir Monsieur Football Allemand, David de l'Ortolari. Bonsoir, David.
Bonsoir, Hakim. Bonsoir à tous.
Et David, bien sûr, cette semaine, on a vu, c'est encore cette histoire qui doit être dans les buts de la sélection allemande, Neuer ou Ter Stegen, le gardien du Bayern Munich, le capitaine, l'homme expérimenté, ou bien celui qui a réussi de très belles prestations, même si l'autre jour, face à Villarreal, bon, ça arrive, il a commis une petite erreur sur le but de Cazorla, même si c'est un très bon joueur. On va revenir sur Cazorla dans un petit moment, mais là, c'est le patron Hoeneß qui est sorti pour défendre son gardien et également menacer le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, David.
Président du Bayern au premier rang de ceux-là, où Hoeneß, on peut toujours lui faire confiance pour, dans la saison, quelques reprises et de façon pas toujours attendue, faire des sorties médiatiques remarquées. Et en plus, maintenant, les réseaux sociaux s'en mêlent. Dans la question du gardien de but de la Mannschaft, die Torwartfrage, comme on dit en Allemagne, entre Marc-André Ter Stegen et ses prestations remarquables du moment et Manuel Neuer et son expérience, le débat est emballé et emballant, et où Hoeneß en a remis une couche, a mis de l'huile sur le feu en expliquant que maintenant, si on remettait en question les joueurs du Bayern, le Bayern n'enverrait plus de joueurs en équipe nationale. Alors il y a vraiment là-dedans évidemment le bluff habituel, mais il y a aussi une espèce de crispation qui est assez désapprouvé globalement en Allemagne, où on estime que le président du Bayern, cette fois-ci, est allé vraiment trop loin. Ça veut dire quand même que la question du gardien de but est une question qui est maintenant délicate, et c'est pas très bon signe pour Manuel Neuer que ses dirigeants le défendent finalement, parce que Manuel Neuer n'a besoin d'être défendu par personne. Ce n'est pas que mon point de vue, c'est le point de vue très partagé en Allemagne. Et alors après, bon, les sorties d'Uli Hoeneß sont quand même très théâtrales. Je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de recul et en rire que se crisper là-dessus. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, le lait a bouilli et ça a un peu débordé de la casserole. Je ne pense pas qu'il faille accorder plus d'importance que ça pour l'instant à cette sortie diplomatiquement incorrecte. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bruit.
Une histoire très imagée, David. Une dernière question avant de retrouver Frédéric Hermel à Madrid. Il s'agit de ce que dit la presse allemande. Eh bien, Lewandowski va-t-il dépasser la barre des 40 buts parce qu'il a commencé très fort cette saison?
Évidemment, l'attaquant du Bayern, il est sur un rythme affolant, et notamment une petite statistique que je vous glisse rapidement. En 5 journées de championnat, jamais aucun joueur dans l'histoire de la Bundesliga n'a marqué 10 buts. Lewandowski en est à 9, Vous vous souvenez qu'il a laissé, il a offert en cadeau, on va dire, ce qui aurait pu être son troisième but, c'est-à-dire le penalty du Bayern la semaine dernière. Il l'a offert à Coutinho pour enraciner la bonne entente qu'il y a entre les deux joueurs. Coutinho a beaucoup apprécié d'ailleurs ce geste, de façon officielle, mais je pense aussi intimement. Et sans cela, Lewandowski, qui en est à 9, en serait à 10. Ça veut dire mieux que un certain Gerd Müller. Et évidemment, la barrière des 40 buts dans une saison, qui n'a été atteinte que par Gerd Müller, est à présent sur toutes les lèvres. Et on va voir si Lewandowski est capable de garder ce niveau plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais pour l'instant, c'est vrai que tout lui réussit.
David Lortolari, monsieur football allemand, merci beaucoup et bonne soirée à lundi prochain pour revenir sur les chocs de ce week-end en Allemagne avec, vous le savez, plusieurs équipes qui sont en tête du championnat, qui se tiennent à 1-2 points. Retrouve Fred à Madrid. On a parlé du Real, de l'Atlético, le derby, Messi, la blessure, le Barça, la petite forme, mais on a encore 2 petites minutes 30, l'occasion pour nous de parler du match de ce soir, par exemple, Villarreal Betis, mais surtout de deux joueurs exceptionnels, deux joueurs qui se bonifient en quelque sorte. Je ne sais pas si j'ai raison, Fred, je parle de Joaquín et Cazorla.
Ben oui, parce que c'est vrai que ce sont des joueurs qui font un extra pour le plaisir. Ils sont pas là pour l'argent, ils sont pas là pour la gloire. Ils sont là pour profiter de leurs dernières années de football avec des parcours différents. Bon, déjà, ce sont deux gars très sympathiques. Joaquim, sûrement le joueur le plus drôle, mais vraiment le plus drôle de tout le championnat. C'est un bonheur. Il prend son travail au sérieux, mais lui-même ne se prend pas au sérieux. Et puis Cazorla, c'est surtout quelqu'un qui revit. C'est quelqu'un, on se demandait s'il allait encore pouvoir vraiment marcher normalement après toute cette série d'infections graves qu'il avait eues au niveau d'un pied lorsqu'il était à Arsenal. La question n'était même pas de savoir s'il allait rejouer au football, mais s'il allait pouvoir marcher normalement. Et le voir aujourd'hui courir de la manière qu'il le fait sur un terrain, et de voir le but extraordinaire, cette frappe sublime qu'il a mise mardi soir sur la pelouse du Barça, on peut se dire quand même que Cazorla a encore des choses à offrir, et que c'est un plus dans sa carrière qui lui fait du bien à lui, qui fait du bien à son équipe, Villarreal, et qui fait du bien à la Ligue espagnole. On a besoin de beaux exemples et de beaux joueurs dans le football, même s'ils ne sont plus au top mondial. Ça reste des joueurs très agréables à voir.
Voilà, Cazorla, excellent à voir, beau à voir, et ça fait du bien, bien sûr, c'est beau pour les yeux. Il nous reste une petite minute, Fred, juste on revient sur le FC Séville. On a cette impression, comme les dernières années, ça commence bien, et ensuite ça commence à fléchir, d'autant plus qu'on a vu un entraîneur un peu nerveux. Je parle de Lopetegui, Fred.
Bah, je comprends qu'il soit nerveux. Hier, cette équipe de Séville menait 2-0 sur la pelouse d'Eibar à la mi-temps et ils perdent 3-2. C'est quand même qu'il y a un problème de concentration de la part des joueurs. À un moment, l'entraîneur, il peut dire à la mi-temps, attention, faites attention, c'est Eibar, c'est un petit stade, ils sont compliqués à jouer, etc. Les joueurs ont vu la victoire un peu trop vite. Alors, autant je peux dire que la défaite contre le Real était une défaite personnelle de Lopetegui, puisque Zidane, avec sa tactique, a battu Lopetegui et a totalement muselé cette équipe de Séville. Autant la défaite à Eibar, c'est la faute des joueurs et pas de l'entraîneur, parce que professionnellement, on n'a pas le droit de lâcher un match comme ils l'ont fait hier à Eibar.
Voilà, donc c'était le dernier mot. Le Eibar qui a battu le FC Séville, les Andalous qui ont mené 2-0 face au Real, ils n'ont pas cadré un seul titre. Merci beaucoup Fred, et à lundi prochain pour revenir sur les péripéties du week-end dans un instant, et bien la deuxième partie de l'avant-match. La deuxième partie de l'avant-match tout à l'heure, on a parlé du football espagnol avec Frédéric Hermel, le derby attendu demain entre l'Atlético et le Real, la blessure de Messi, et également avec Aurélien de Vernois, l'élimination de Tottenham de la Coupe en Angleterre, le choc contre Manchester United et Arsenal ce week-end, et également l'Allemagne avec cette histoire qui doit bien entendu être dans les buts de la sélection allemande et cette sortie de Lyonnais. Dans la deuxième partie, on ira en Italie et en France, la France avec Hervé Penaud. Bonsoir Hervé.
Bonsoir les amis, quel plaisir de vous retrouver.
Et également avec nous Simone Rovira en Italie. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. La semaine de la Ligue des Champions va arriver, je tremble un peu.
la Ligue des Champions la semaine prochaine. On aura l'occasion de revenir sur la Ligue des Champions dès lundi prochain. On le sait, c'est la deuxième journée. Mais avant cela, on parlera du football italien parce que, par exemple, en Italie, le Milan AC, certains eh bien, demandent le retour de Gattuso du côté du Milan AC parce que ça ne va pas très fort. Le voisin et ennemi éternel, l'Inter, eh bien, vole de victoire en victoire, 5 victoires en autant de matchs pour les hommes d'Antonio Conte. Et puis, Franck Ribéry avec une nouvelle jeunesse à la Fiorentina. En France, on va parler, bien entendu, du Paris Saint-Germain qui vient d'être battu sur son terrain. Et Hervé Penaud était sur place, d'ailleurs, pour cette rencontre. On va parler de Lyon, ça ne va pas très fort. Et également Saint-Étienne. Mais avant cela, d'abord, une information concernant l'Afrique. Hervé, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant d'Arsenal, a accepté de retrouver la sélection du Gabon parce que ces derniers mois, c'était, on va dire, il était fâché.
Exactement. Et puis c'est une très très bonne nouvelle parce que quand les grands joueurs rejouent pour leur sélection africaine, évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, à lui de montrer aussi que l'impact qu'il a pu avoir sur le championnat européen, il l'aura en Afrique. Parce que pour l'instant, on attend beaucoup plus, évidemment, de Pierre-Emerick Aubameyang, hein, un joueur qui marque but sur but, mais qui, en équipe du Gabon, eh ben, dans un environnement différent, évidemment, avec des partenaires qui n'ont pas parfois les mêmes qualités, eh ben, il n'arrive pas à sortir complètement son épingle du jeu. Alors, il va falloir qu'il arrive avec humilité. C'est quelqu'un qui a un très bon état d'esprit, hein, ça, il faut lui reconnaître. Mais en revanche, évidemment, étant la star absolue du Gabon, ben, quand il vient, il veut quelques assurances, hein, et il s'est battu aussi pour les autres sur les voyages qui étaient absolument calamiteux. Donc aujourd'hui, j'espère qu'il aura eu des requêtes qui auront été acceptées. Et puis, avec le nouvel entraîneur hein, qui vient de se mettre en place, ils ont eu cette fameuse discussion. Ils se sont rencontrés à Paris et il lui a dit « Moi, je suis prêt de toute façon à venir ». Il attendait d'une certaine manière un appel hein, de son nouvel entraîneur. Maintenant, il va falloir qu'il mette les mains dans le cambouis. Il va falloir surtout que la fédération gabonaise travaille de manière intelligente pour mettre toutes ses forces vives en chemin. Et puis après, ben, on espère que le Gabon décolle encore. Mais surtout, ce qui est important, c'est de revoir un Aubameyang au plus haut niveau africain. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il montre aussi ce qu'il est capable de faire sur les terrains africains, même si l'entourage sera évidemment de moindre qualité que ce qu'il peut avoir à Arsenal.
Une dernière question concernant le football africain avant d'aller en Europe. Je parle du vote la FIFA, le joueur FIFA de l'année remporté par Lionel Messi. On s'attendait à mieux de la part des joueurs africains, d'autant plus qu'une équipe comme Liverpool qui a remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe, il y a quand même des joueurs, plein de joueurs, mais surtout Salah et Sadio Mané, Hervé.
Absolument. Et bien évidemment qu'on est très déçus pour les joueurs africains. Je pense que Sadio Mané, pour moi, méritait vraiment, si ce n'est le titre, au moins d'être pas être loin. Il n'est même pas dans l'équipe type. Alors l'équipe type, je sais bien que c'est les internautes, donc ça c'est un truc un peu particulier. Hein. C'est les jeunes fans de certains clubs qui cliquent de plus en plus. Et puis vous retrouvez avec des joueurs qui n'ont aucune raison d'y être, hein, comme Marcelo. Mais toujours est-il que c'est vrai que c'est une déception pour Sadio Mané et Mohamed Salah. Et il y a un truc qui ressort, maintenant on s'en rend bien compte. C'est-à-dire que sur toute l'aventure de Liverpool, finalement le joueur qui est mis en valeur, c'est Van Dijk. Et ça, mine de rien, ça pèse au moment des votes parce que quelqu'un se dit je veux mettre un joueur de Liverpool et je vais pas en mettre deux ou je vais pas en mettre trois. Et c'est assez bizarre d'une certaine manière parce que c'est un peu comme si à la grande époque de Messi, vous aviez expliqué que les résultats de Barcelone étaient liés évidemment à Messi hors norme, mais pas seulement. Mais que Piqué avait été tellement formidable que finalement Piqué mériterait aussi d'avoir un titre, voire Puyol. Alors que généralement, on a tendance à récompenser toujours les attaquants. Et c'est vrai que la manière dont ils ont été zappés, je trouve ça très étonnant. Vous savez, j'ai l'impression que Sadio Mané, d'une certaine manière, c'est un peu le N'Golo Kanté africain. C'est-à-dire que c'est celui dont on parle moins que les autres, mais on sait qu'il est hyper utile, hyper fort. Je pense qu'il mériterait vraiment une distinction. Il sera pas loin, en tout cas, pour le Ballon d'Or africain.
Voilà pour cette parenthèse du football africain. On va revenir en France dans un instant, mais d'abord l'Italie. Le Milan AC, avec une nouvelle défaite, battue par Torino cette semaine. Et contrairement, l'Inter va très bien en ce moment, Simone, l'Inter et le Milan AC, c'est le contraste.
Oui, on dirait qu'il vit dans deux époques différentes aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, Milan et Inter sont sur le même plan seulement dans l'objectif de rebâtir un nouveau stade, mais ça on va parler un autre jour. Moi j'ai vécu deux jours où vraiment j'ai vu deux choses différentes. J'étais à San Siro pour Inter Lazio, j'ai vu un Inter solide, dominatrice, qui était capable de souffrir, oui bien sûr, dans les difficultés, première mi-temps très bien maîtrisé par la Lazio, et un super Handanovic qui arrive à sauver l'Inter. Mais après, tu vois la qualité, tu vois la force, tu vois l'envie, tu vois un Antonio Conte qui fait des changements tactiques pour aller gagner les matchs et pour aller marquer un deuxième but après les 1-0 avec l'entrée en jeu de Sensi pour Vecino. Donc, un jeu offensif de l'Inter et un jeu encore plus offensif recherché par Conte. Par contre, là aussi, j'étais au stade hier soir à Torino pour ce Torino-Milan. Et tu vois, Milan petit à petit s'écrouler, avoir presque peur de gagner ses matchs, se rendre compte que Torino commençait à avoir des vagues offensives et pas savoir comment l'arrêter. Quand Mazzarri change d'esprit de jeu et passe du 3-5-2 au 4-4-2, on dirait la panique sur le banc de touche du Milan. Et Gianpaolo, par contre, est considéré un très bon entraîneur qui trouve des solutions à des joueurs de qualité. Je trouve que Bennacer a été le meilleur du Milan avec Théo Hernandez, donc les nouvelles recrues. Très bien aussi Rafael Leao. Mais Gianpaolo, certainement, a fait sortir son meilleur attaquant Leao pour mettre en milieu de terrain Bonaventura qui, depuis un an, ne jouait plus. Donc, on peut poser beaucoup de questions sur comment Gianpaolo est en train de gérer Milan et s'il aura un avenir sur le banc des touches. De l'autre côté du Milan, Antonio Conte, 5 sur 5, parfait. Ce week-end, va jouer face à la Sampdoria. Et attention, parce qu'on peut déjà annoncer que dans 10 jours environ, il y a Inter-Juve. Et on dirait, après un mois et demi de championnat, presque le match du titre, le match qu'aujourd'hui l'Italie entière attend, et peut-être en Europe, une Inter-Juve avec Antonio Conte sur le banc des touches, va être un peu un plat gourmand pour tout le monde du football.
Voilà, l'Inter devant la Juve au classement général avec 2 points d'avance. Les Turinois qui enregistrent le retour de Cristiano Ronaldo, l'international portugais, était absent lors de la dernière journée, devrait enregistrer son retour. On parlait tout à l'heure du football africain, de Sadio Mané, de Aubameyang. Aubameyang, vous le savez, qui a évolué aussi en France avec des équipes comme Dortmund, comme Arsenal, mais aussi Saint-Etienne. Et quand on parle de Saint-Etienne, eh bien, ça ne va pas très fort du côté de Saint-Etienne. Les voisins non plus, les Lyonnais, avec un match ou bien une semaine très difficile. Nantes, ce week-end, en championnat, la Ligue des Champions avec Partizan de Belgrade, et surtout un derby face à Saint-Etienne. Et après, on parlera du Paris Saint-Germain. Mais d'abord, ces deux voisins qui vont mal du côté du championnat de France, Hervé.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, surtout Saint-Etienne, c'est quand même une catastrophe, parce qu'on se retrouve avec un méli-mélo absolument invraisemblable, puisque l'entraîneur a été reçu par l'un de ses présidents. Vous savez, à Saint-Etienne, il y a deux présidents. Ils sont jamais du même avis. L'un veut un entraîneur, l'autre un autre. Ils se tapent dessus j'allais pas dire dans les médias, mais par derrière. Et puis finalement, c'est comme ça depuis plus d'une dizaine d'années. Ils ont quand même eu des résultats. Mais lundi dernier, vous avez donc Roland Romeyer, le président, mais qui habite à Saint-Etienne. Il a reçu Ghislain Printemps et en gros il lui a dit « Bon, on t'a fait une fleur de venir comme entraîneur, mais toi tu pourrais nous faire une fleur pour partir. » Alors imaginez bien que l'entraîneur, il va pas s'asseoir sur plus d'1 million d'euros s'il est viré ou quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit évidemment « Non, je reste ». Donc ça fait qu'il se retrouve avec la tête toujours de l'équipe. Ils ont perdu contre Metz, un promu, donc un gros coup encore, mais ils savent plus quoi faire. Parce que d'un autre côté, vous avez le président qui lui reste à Paris et qui n'est même pas venu au match à Saint-Etienne, de peur qu'il lui arrive quelque chose, parce que les supporters l'ont vraiment dans le viseur. Eh bien, lui voudrait ramener Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur. Donc voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi, le grand flou autour de Printemps, l'entraîneur dont plus personne ne veut, en quelque sorte, mais qui va se retrouver certainement sur le banc encore ce week-end, faute de mieux. Donc ça veut dire que ça part dans tous les sens. Donc Saint-Etienne, attention, c'est grave. À Lyon, c'est un autre cas de figure. C'est que Silvinho est là depuis il a débuté sa saison en août, il est là depuis le mois de juillet. Eh ben, il faut qu'il se fasse à son métier. Et il se retrouve confronté aux difficultés qu'avait Bruno Genesio, on a souvent parlé l'année dernière, de trouver un équilibre avec cette équipe, avec ses joueurs, avec ses personnalités, ses mentalités. Eh bien, lui, il est un peu dans la mouise. Et surtout, ne trouvant pas, il cherche, mais à force de chercher, il finit par perdre tout le monde. Il change le système de manière permanente. Il avait assuré qu'il pourrait jouer en 4-3-3, 4-2-3-1, tout ce qu'on voulait. Mais au moins, il y avait une base, c'était la ligne défensive de 4. Il est passé à 3 contre le Paris Saint-Germain. Là, le dernier match, ils ont joué quand même à Brest, qui est un promu, une équipe en difficulté, et qui a réussi quand même à faire 2-2. Et son milieu de terrain, par exemple, a été modifié 3 fois pendant le match. Alors, quand les joueurs ont une maîtrise de leur jeu très très fine, style Manchester City, c'est pas grave que De Bruyne voulu demander de changer 5 fois de poste puisqu'ils maîtrisent tout et gagnent leur match. Alors que là, c'est une équipe qui a vraiment des difficultés à se comprendre déjà sur le terrain. Et un joueur comme Terrier, par exemple, est passé de milieu gauche, ou ailier gauche, si vous voulez, à milieu axial et à milieu droit. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et on sent à Lyon commence à poindre quelques interrogations et quelques doutes sur la capacité de Silvinho à sortir cette équipe du pétrin. Et derrière, vous avez Juninho qui parle pas trop, alors qu'il a donné une interview pour l'OLTV, le média du club, en expliquant qu'il va falloir maintenant être plus agressif, plus offensif, etc., etc., etc. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment énormément d'interrogations avant le match demain, et qui aura lieu en plus à un horaire inhabituel, vers 13h30, parce que tout le monde se dit, attention, et si ça chute là, vous avez Leipzig dans la foulée, et le fameux derby contre Saint-Etienne une semaine plus tard. Donc le match demain, déjà pour Silvinho, est capital. Il va falloir qu'il trouve des solutions. C'est pas simple, mais aux joueurs aussi, évidemment, de donner enfin, de montrer enfin ce dont ils sont capables, parce que les premiers responsables quand même, ça reste les joueurs sur le terrain qui parfois n'en font vraiment pas assez.
Il nous reste 4 minutes, on va parler du Paris Saint-Germain et éventuellement le retour de Kylian Mbappé qui était blessé depuis un mois, et également de Franck Ribéry, un ancien international français qui retrouve une nouvelle jeunesse du côté italien avec la Fiorentina, et toute la presse a salué sa dernière prestation. Il est revenu petit à petit, mais là, pour sa deuxième titularisation, il a été plus qu'à la hauteur, Simone.
Non, mais Franck Ribéry, c'est simplement extraordinaire. 36 ans, mais une qualité supérieure. C'est pas un hasard que Vincenzo Montella est en train de dessiner sa Fiorentina autour de lui. Il a enlevé un attaquant de pointe pour mettre devant Ribéry et Chiesa, deux joueurs d'âge différent, mais de grandes qualités et qui ont beaucoup d'envie de travailler. Et donc, avec un milieu plus solide, tu peux te permettre d'avoir deux attaquants comme ça devant. Et c'est pas un hasard qu'après plus de 200 jours d'attente, la Fiorentina a retrouvé une victoire en Serie A. Faut pas oublier, Atalanta, Naples et Juve étaient trois adversaires dans les 4 premières journées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Fiorentina peut rêver de démarrer maintenant sa saison. Attention, parce que il y a un choc face au Milan qui va arriver, et on peut voir si la Fiorentina aura la force et l'ambition d'aller chercher des places un peu plus hautes dans les classements et peut-être mettre encore plus en difficulté Milan.
On va attendre la confirmation de Franck Ribéry. On le sait qu'il a passé plus de 10 ans du côté du Bayern Munich. On prend la direction, on retrouve le Paris Saint-Germain. Il y a une dizaine de jours, le PSG avait réussi une très belle prestation face au Real Madrid, 3-0. Là, une semaine plus tard, le PSG s'est incliné. Un match où vous avez assisté, où il y avait un international marocain qui portait le brassard de capitaine avec une très belle prestation, Hervé.
Absolument, et comme d'habitude, j'allais dire, hein, il a encore fait son match, hein, il a encore été très bon, il a même failli marquer un but de la tête, pour tout vous dire, Abdelhamid. Mais c'est un Paris Saint-Germain qui inquiète, attention, parce que c'est vrai qu'ils ont gagné 3-0 contre le Real, un petit Real, et alors une défaite contre Reims à domicile, la deuxième de la saison, ça fait beaucoup pour un effectif de ce calibre-là, et surtout ça fait d'autant plus qu'il faut pas oublier que Tuchel, il n'est pas sauvé, pour tout vous dire. Tuchel, il est quand même sur un siège éjectable, parce qu'on sait que Leonardo n'est peut-être pas un fan absolu, hein, que Allegri est pas loin, qui rôde, et il serait peut-être plus intéressé par un entraîneur italien que par Tuchel. Et cette défaite-là, elle fait mal. Il va falloir que lui resserre vite les boulons et se remette dans la droite ligne. Malheureusement, c'est vrai aussi, il faut quand même le noter, qu'il y a eu beaucoup d'absences pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est vraiment décimée. Alors là, elle va retrouver Mbappé, c'est très important. Il va y avoir enfin du jeu offensif, d'autant que Choupo-Moting s'était blessé. Donc ça veut dire qu'il va falloir maintenant un peu accélérer la cadence, parce que personne ne pouvait imaginer que Reims serait venu s'imposer au Parc des Princes de cette manière-là, et en plus sans le voler. Hein. C'est vraiment une victoire tout à fait méritée. Donc quand Neymar les avait sauvés les deux dernières journées, les gens pouvaient se dire, bon, enfin, peut-être Paris va redémarrer, mais c'était lié quand même à un joueur particulier, hein, sur un retourné magnifique, plus une action individuelle contre Lyon. Là, puisqu'il n'a pas marqué, eh ben, d'un seul coup, le Paris Saint-Germain se retrouve en difficulté. Ce qui prouve que collectivement, il y a quand même pour l'instant des vrais soucis. Quel que soit le résultat contre le Real, pour l'instant, le Paris Saint-Germain de Tuchel est bien scruté du côté de Doha. Et il ne faudrait pas qu'il y ait quelques déconvenus de plus, parce qu'il pourrait se retrouver en difficulté.
le Paris Saint-Germain qui va affronter donc les Girondins de Bordeaux lors de ce week-end avant de retrouver la Ligue des Champions et un match très important, on le sait, dans un groupe où il y a l'équipe de Galatasaray et également le FC Bruges. Pour l'instant, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est en tête de son groupe. Merci beaucoup Hervé Penaud, notre monsieur football français, et également Simone Rovera. Pour le football italien, on aura l'occasion de revenir sur le week-end et bien entendu les sorties de l'Inter et de la Juve. Les deux équipes de tête, l'Inter est en tête avec 5 victoires. On attend 2 matchs, ça sera dès lundi prochain. On rappellera également qu'en Afrique, eh bien, dès ce vendredi, les 16e de finale retour de la Ligue des Champions et également la Coupe de la CAF avec ce vendredi le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, qui affronte Elect, équipe tchadienne bien entendu. Lors du match aller, les deux équipe avait fait match nul, un but partout dans cette Ligue des Champions. Le Maroc a 2 représentants, le Raja et le WAC. Les deux équipes ont gagné en déplacement, le Raja en Égypte face aux Libyens de Nasser et également le WAC face à l'équipe du FC Nouadhibou en Mauritanie. Merci à tous et bonne soirée à l'écoute de Métiers.